parce que le pays est devenu un pays beaucoup trop hostile à l'innovation et surtout à la liberté.
Paul Jorion, la croissance peut notamment sauver le continent africain, par exemple ?
Oui, mais c'est-à-dire, moi, j'ai du mal à embrayer directement parce que je ne suis pas d'accord avec cette idée que qu'il y aurait des systèmes absolument différents, comme c'était le cas autrefois quand il y avait donc une concurrence entre le système marxiste-soviétique et le capitalisme. Parce qu'il me semble que toutes les représentations, qu'il s'agisse, je dirais, par exemple, des chiites ou des sunnites, ils fonctionnent exactement dans le même système économique que nous. On le voit justement que l'État islamique se débrouille très bien pour avoir des finances qui sont en bonne santé. On le voit que la Chine, avec une représentation très différente de nous, de ce que doit être le bonheur des peuples, de ce que doit être de la manière de gérer d'une société, fonctionne à l'échelon international. Et quand la Chine éternue, eh bien c'est l'ensemble du monde qui a un rhume. Mais pourquoi ? C'est parce que nous sommes, au moins il y a une chose sur laquelle nous sommes tous d'accord, c'est que nous pouvons faire fonctionner notre système sur un système de marché où on dégage un profit. Et là, tout le monde est absolument d'accord sur ce fonctionnement-là, sans se poser la question de savoir s'il n'y aurait pas d'autres alternatives. Et je donne un exemple d'une alternative. Par exemple, un système de gratuité qui jouerait pour la plupart des choses dont nous aurions un besoin élémentaire. C'était une proposition faite à l'époque par Robespierre, que pour les besoins essentiels, eh bien, il faudrait qu'il soit gratuit, d'accès gratuit, et que si par ailleurs les gens ont envie de devenir millionnaires, qu'ils aient la capacité de le faire, mais pas par une activité de prédation sur les besoins élémentaires des populations en général.
Vous soutenez cette idée, Nicolas Bavré ?
Les expériences de Robespierre m'apparaissent s'être conclues de manière pas vraiment positive, ni sur le plan économique, ni sur le plan politique. Donc je ne crois pas que la terreur soit vraiment un modèle qu'on puisse donner à l'humanité et à l'humanité du XXIe siècle. Je pense que le modèle de la terreur, il est donné par l'État islamique aujourd'hui, et très franchement, je pense qu'il vaut mieux le combattre que l'encourager. Mais surtout, je ne suis pas d'accord avec l'idée que c'est l'économie qui mène le monde. Oh, il y a toujours une autonomie du politique, elle est très importante, et d'ailleurs elle explique que si on prend l'Afrique qui est un continent, c'est pour ça que c'est toujours difficile de parler de l'Afrique en général, l'Afrique, il y a 54 pays,
évidemment.
Il y en a qui réussissent très bien, et il y en a qui sont des catastrophes, et avant d'être des catastrophes économiques, ce sont des catastrophes politiques, parce que si on prend les États effondrés comme la Somalie ou la Libye, ça pose des problèmes, et qui ne sont pas des problèmes d'abord économique, mais d'abord des problèmes de violence, de guerre civile et ensuite d'exportation de la violence autour d'eux. Et c'est pour ça que si on veut comprendre ce monde, oui, l'économie est évidemment très importante. Et Dieu sait que les secousses économiques continuent, que je le rappelle, avec les dettes, le chômage a pesé sur nous. Mmh. Mais on ne peut pas comprendre le monde d'aujourd'hui simplement à partir de la ligne économique. Il faut intégrer la dimension de la politique et la dimension de la géopolitique. Et celles-là, elles ne se réduisent pas du tout à un système unique.
L'économie, la finance, c'est ça qui dirige le monde essentiellement, avant tout, Paul Jorion ?
Oui, c'est ça qui est paradoxal. Dans la position de M. Bavrez et de moi, on pourrait imaginer le contraire. C'est-à-dire que moi, je dis ce qui est des choses beaucoup plus importantes que l'économie. D'abord, une toute petite note. Robespierre, c'est un personnage historique et on l'appellerait aujourd'hui un défenseur essentiellement des petites et des moyennes entreprises. C'est très, très à la mode de défendre les petites et moyennes entreprises, donc il me semble qu'on peut citer Robespierre.
Dans quel monde on vit ?
Dans quel monde on vit ?
Avec Pascal Claude.
Sur la première.
Alors, on en a parlé déjà, vous en avez déjà touché un mot tout à l'heure, les robots qui envahissent petit à petit notre univers. Vous expliquez tous les deux d'ailleurs qu'ils devraient tuer pas mal d'emplois. Alors, question, est-ce que le travail est en voie de disparition? Nicolas Bavré. C'est une idée que défend notamment Jérémy Rifkin.
Oui, ça fait partie des idées simples qui sont aussi des idées fausses et qui empêchent justement d'agir sur les problèmes de notre monde.
Paul Jorion, c'est une idée fausse?
Bah, si vous voulez, c'est une. Peux quand même le justifier une seconde, c'est que parler de fin du capitalisme, alors que d'ailleurs Paul Jorion vient de. Et je suis totalement d'accord avec lui sur le fait que le capitalisme s'est universalisé. Parler de fin du travail, alors qu'on a 3 milliards de gens qui sont rentrés dans l'économie de marché en un quart de siècle, c'est quand même se tromper lourdement.
Votre réplique, Paul Jorion ?
Bah, c'est-à-dire qu'il y a des études qui sont très bien faites, qui sont faites essentiellement dans des universités britanniques et américaines, qui font des projections sur la disparition du travail. Et les chiffres varient un petit peu de pays à pays, mais à un horizon comme celui de 2030, la fourchette de disparition d'emplois est toujours de l'ordre entre 35 et 50%. Donc ce sont des chiffres très importants. Alors, il y a moyen de créer des emplois en très grande quantité. Il y a des emplois qui sont beaucoup plus difficiles à remplacer, soit par le logiciel, soit par la robotique. Ce sont des emplois très versatiles, parce que nous avons cette capacité, quand même, comme être humain, à pouvoir changer de tâche d'un instant à l'autre, de changer de stratégie, etc. Et ça, ce sont des emplois qui pourraient être liés à une grande transition énergétique d'utilisation de la planète dans une perspective beaucoup plus durable et beaucoup plus de continuité. Mais il faut bien savoir une chose, on ne pourra pas créer ces emplois dans une perspective simplement de profit d'entreprise individuelle.
Vous dites tous les deux qu'il faut espérer un sursaut. Nicolas Bavré, vous parlez d'une mobilisation. Mais question posée dans votre livre, Paul Jorion, notre espèce est-elle outillée pour empêcher son extinction ? La réponse est non. Hein. Vous écrivez que nous sommes très mal outillés pour anticiper une catastrophe. Vous rappelez que nous sommes éphémères et jetables et que la reproduction nous distrait. Nous passons trop de temps à faire l'amour, Paul Jorion ?
C'est-à-dire que la nature autour de nous avait un choix de nous rendre immortels. Elle n'a pas choisi cette voie-là. Et donc, la survie de l'individu n'existe pas, mais la survie de l'espèce, elle, est arrangée. Mais ceci dit, la nature n'a rien fait pour que cette survivance de l'espèce soit garantie pour toujours. Et donc, quand nous voyons devant nous, à l'horizon, le risque de disparition de l'espèce, là, nous ne pouvons pas rester sur les rails. Nous ne pouvons pas faire confiance à la main visible d'Adam Smith sur le fait qu'elle va nous sauver. La main visible d'Adam Smith, elle peut régler nos activités dans la vie de tous les jours, mais elle ne peut pas agir à la mesure de l'obstacle qui se présente devant nous. C'est que nous sommes sur des rails vers l'extinction et que nous devons prendre conscience de cela et prendre des décisions dans ce sens-là.
Et quelles décisions faut-il prendre ? On va intéressé à ça parce que ce sursaut, cette mobilisation, d'où peut-elle venir, Nicolas Bavré ?
Alors d'abord, je pense qu'il faut rester quand même un peu raisonnable, c'est-à-dire qu'on a finalement des utopies diaboliques ou iréniques. Donc les uns nous annoncent le transhumanisme et le fait qu'on va devenir immortel. Paul Jorion nous explique que non seulement on va rester mortel, mais qu'on va tous disparaître. Heureusement, je pense qu'il existe un espace pour construire effectivement et agir et qui permet d'éviter ce...
Mais quels sont les actes les plus importants à poser aujourd'hui ?
Les actes les plus importants à poser, c'est une chose très très simple, et je rejoins ce qui a été dit, c'est que le pilotage automatique, en revanche, créera des catastrophes. Donc, il faut absolument se mettre en position d'agir sur ce monde. Il faut agir pour créer de la sécurité, pour créer de la stabilité économique.
Et l'auditeur qui nous écoute ce matin, il peut faire quoi ?
Alors, il y a au moins trois choses qu'on peut imaginer. D'abord, y compris sur le plan écologique, on s'aperçoit qu'il y a les grands règlements, mais qu'en matière d'innovation, l'innovation, elle se passe beaucoup de manière microéconomique en Californie, aux États-Unis, également en Chine. Donc d'abord, il faut libérer l'énergie des sociétés et des économies pour permettre à l'innovation d'éclore de manière beaucoup plus systématique. Ensuite, on l'a dit, ce monde comporte des risques et c'est vrai que nos États sont à la fois surendettés et ils sont aiguillés vers la surveillance des risques du passé. Et ils agissent très peu sur les risques de l'avenir. Donc il faut les rendre de nouveau agiles pour pouvoir agir sur un certain nombre de risques. Et puis la dernière chose, c'est que dans tout ce qu'on a évoqué, il y a une dimension qui est incontestablement une dimension internationale. Donc tout ce qui peut être fait pour intégrer d'abord les pays émergents à la gouvernance mondiale, pour essayer d'endiguer la violence, c'est tout à fait positif. Et on peut quand même arriver à faire des choses utiles.
Paul Jorion, d'où peut venir le sursaut ?
Oui, voilà. Il faut dire d'abord que je suis tout à fait d'accord, évidemment, sur le fait qu'il faut agir. Et ce serait un malentendu total si on imaginait que la conclusion de mon livre, c'est qu'il ne faut pas agir, au contraire. Mais moi, je vois plusieurs axes possibles. L'un, c'est par rapport au système financier et économique que nous avons. Nous avons, à la fin du 19e siècle, nous avons autorisé ce qu'on appelle la spéculation. Et la spéculation, c'est un terme technique, mais qui renvoie à une réalité qui était interdite par la loi dans nos pays, en Belgique scientifique jusqu'en 1867, c'est le fait de parier sur, à la hausse ou à la baisse sur le prix des instruments financiers. Alors c'est une chose qui, quand on la laisse faire, exerce une activité de prédation tout à fait essentielle sur l'économie et sur la finance. Prédation dont nous ne pouvons plus nous permettre le luxe aujourd'hui. Il faut que nous mobilisions toutes les ressources. L'autre chose qui est très importante, sur laquelle il faut revenir, à mon avis, c'est cette perspective de dérégulation à tout prix. Je crois qu'il faut au contraire reprendre les choses en main. Il faut que ce qui m'a paru extrêmement pernicieux, c'est cette idée qui s'est instaurée dans les années 70 avec la venue du libéralisme, qu'un État c'était une chose qu'il fallait gérer comme une entreprise. Et ce qui a disparu à cette occasion-là, c'est ce qu'on appelait le sens de l'État, c'est-à-dire l'identification des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires, des gens qui appartenaient au gouvernement à l'intérêt général. Il faut absolument que le souci de l'intérêt général revienne absolument au centre. Et pour ça, il faut que nous mobilisions les solidarités qui sont sous-jacentes à nos systèmes. On a trop mis l'accent sur la concurrence qui aurait des vertus extraordinaires. Les systèmes ne fonctionnent que par la solidarité en réalité dans les sociétés humaines. Et même quand on voit des fraudes massives dans la finance, par exemple le scandale du Libor, c'est la solidarité qui se manifeste entre tous les traders dans toutes les entreprises financières et qui se mettent d'accord pour travailler ensemble. Même là, je dirais, quand il s'agit de commettre des crimes économiques et financiers, la solidarité joue aussi. Il faut qu'on remette ça au centre des priorités parce que c'est le seul moyen. Ce n'est pas la concurrence qui nous permettra de sauver l'espèce, mais la solidarité.
Et le citoyen a du pouvoir ?
Oui, le citoyen, bien entendu, a du pouvoir. Ce qu'il faudrait éviter, c'est que dans des situations comme les nôtres, le citoyen imagine que c'est simplement en se rassemblant au coin des rues qu'il a du pouvoir.
Vous faites référence à Nuit Debout, par exemple ?
C'est une référence à Nuit Debout, effectivement, ou manifestations qu'on voit réapparaître. Il faudrait qu'il y ait une continuité entre les demandes des citoyens ordinaires et les décisions qui sont prises. Et que, comme ces deux chercheurs américains ont mis en évidence, cette continuité n'existe plus maintenant. Il faut que ça réapparaisse. Il faut à nouveau que nos élus représentent essentiellement, non pas des intérêts tout à fait particuliers, mais l'intérêt général, c'est-à-dire celui de des nations qu'ils représentent, des citoyens qui en font partie, mais de l'espèce aussi dans sa totalité.
Merci à tous les deux d'être venus échanger ce matin autour de la sortie de vos deux livres. Nicolas Bavret, Danser sur un volcan, et Paul Jorion, vous publiez, vous, Le dernier qui s'en va, Éteins la lumière. Merci à vous, bon week-end.
Merci.
Merci.
Événement dans un instant, nous célébrons les 400 ans de la disparition de William Shakespeare. À cette occasion, carte blanche à l'écrivain Gérard Mordia. Il vient nous démontrer que l'œuvre du poète britannique est restée d'actualité. Et puis dès 11h sur la première, l'équipe de Bientôt à table fête les 90 ans du restaurant gastronomique Le Comme Chez Soi. Voilà au moins deux bonnes raisons de poursuivre la matinée avec nous. À tout de suite.